VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir le monde aujourd'hui, Eric Manilakidza avec vous dans cette édition du mardi 26 avril 2022. Au sommaire, enterrement de masse pour des dizaines de victimes d'une énorme explosion dans une raffinerie illégale au Nigeria. Au moins 9 morts hier à Bukavu en RDC dans un éboulement. En Tunisie, l'opposition crée une coalition anti-Saïd. La vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, positive au Covid-19. Washington réunit ses alliés en Allemagne pour armer l'Ukraine et à Moscou. Antonio Guterres plaide pour une trêve. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports. Mais d'abord le journal. Au Nigeria, enterrement aujourd'hui des 110 personnes mortes calcinées vendredi lors d'une explosion dans une raffinerie illégale. De nombreuses personnes brûlées reçoivent des soins dans les hôpitaux. Cette explosion survenue entre les États de Rivers et d'Imo est l'une des pires de ces dernières années dans une région où les vols de pétrole et le raffinage clandestin entraînent des pertes considérables pour le pays. Les précisions avec notre correspondant à Abuja, Gilbert Tamba.
Selon l'Agence nationale pour la gestion des catastrophes, NEMA, 110 personnes sont mortes, dont une femme enceinte. L'incendie s'est produit sur un site d'exploitation illégale de pétrole. Près de 70 autres personnes ont été blessées, dont certaines dans un état critique. La plupart des victimes sont des travailleurs et des personnes venues acheter du carburant. Elles ont été complètement calcinées. De nombreuses familles n'ont pas pu identifier les corps de leurs proches. On ne sait toujours pas ce qui a causé l'explosion qui s'est produite dans la nuit de vendredi à samedi matin dans une communauté située entre les États d'Imo et de Rivers dans le sud-est du pays. Le chômage et la pauvreté dans le delta du Niger ont fait du raffinage illégal du pétrole brut une activité commerciale, ce qui conduit souvent à de nombreux accidents mortels. En février, les autorités locales ont déclaré avoir lancé une campagne de répression pour tenter de mettre un terme au raffinage clandestin, jusque-là sans beaucoup de résultats. Gilbert Tamba, Abuja pour VOA Afrique.
La justice militaire malienne a annoncé mardi l'ouverture d'une enquête après la découverte d'un charnier à Goussi dans le centre du Mali. Où Paris accuse des mercenaires russes d'avoir enterré des corps près d'une ex-base militaire française. Le procureur de la République du tribunal militaire de Bamako s'est rendu à Goussi le 23 avril, accompagné de plusieurs enquêteurs pour faire toute la lumière sur ces faits et l'opinion sera tenue régulièrement informée de l'évolution de l'enquête dont les résultats seront rendus publics, dit un communiqué. Des leaders communautaires et des combattants de groupes armés locaux ont entamé des pourparlers au Burkina Faso. Selon le ministre burkinabé de la Réconciliation nationale, certains jeunes combattants de ces groupes ont exprimé la volonté de parler à leurs leaders traditionnels, religieux et coutumiers. Une source sécuritaire indique qu'il y a déjà eu des contacts entre des combattants de groupes armés et des leaders communautaires dans les zones à fort défi sécuritaire, essentiellement dans le nord où sont concentrées les attaques. Le dialogue doit préparer un retour des combattants dans leur localité pour y reprendre des activités comme l'élevage. 9 personnes sont mortes lundi soir dans un glissement de terrain provoqué par de fortes pluies à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, dans l'est de la RDC. À ce bilan s'ajoutent 9 blessés graves. 5 maisons complètement détruites et 4 véhicules endommagés. Un reportage de Ernest Mouhir.
C'est dans ce décombre que des jeunes s'activent à la recherche des corps ensevelis après l'éboulement de la nuit du lundi qui a détruit 5 maisons et 4 véhicules. Le chef du quartier Nyakaliba parle d'une forte solidarité pour tirer des corps engloutis dans la terre. Dans les décombres, d'autres corps sans vie ont été tirés, faisant un maximum de 8 morts, 8 blessés graves et des familles sans abri. Il est bien connu à Bukavu que ce site est impropre à la construction, mais le manque de logement oblige plus d'un habitant à prendre les risques. Après ces drames, le gouverneur du Sud Kivu vient de donner un délai de 1 mois aux habitants pour libérer cet espace. Signalons qu'avec la pluie récurrente à Bukavu, ces familles sans abri sont davantage en situation de vulnérabilité. Ernest Mouero pour VOA Afrique, Bukavu.
Le bilan est actuellement de 9 morts et de 9 blessés. Le gouvernement congolais a suspendu à titre conservatoire 12 contrats forestiers pour une superficie de 1 966 630 hectares en octobre. Avant la COP 26 de Glasgow, le président Félix Tshisekedi avait déclaré avoir été saisi de plusieurs plaintes d'irrégularités dans l'octroi de concessions forestières et ordonné la suspension de tout contrat douteux. Les rebelles éthiopiens de la région du Tigré ont affirmé mardi s'être retirés des zones qu'ils occupaient depuis 9 mois. C'est une des conditions posées par le gouvernement éthiopien à une trêve annoncée en mars. La récente trêve a permis depuis le 1er avril à plusieurs convois d'acheminer pour la première fois depuis la mi-décembre de l'aide humanitaire pour la route au Tigré. En Tunisie, un ancien opposant sous la dictature Ben Ali a annoncé la création d'un front regroupant plusieurs partis pour sauver la Tunisie de sa profonde crise après le coup de force du président Kais Saied. Plus de détails avec Claire Borégibourg.
Ahmed Nejib Chebbi, vétéran de la scène politique tunisienne, a annoncé la création du Front de salut national avec l'objectif d'unir toutes les forces politiques et de rétablir le processus démocratique et constitutionnel garantissant les libertés et les droits dans le pays. Figure politique de gauche, Ahmed Nejib Chebbi, 78 ans, s'oppose à ce qu'il décrit comme un coup d'État du président Saied qui accapare les pouvoirs depuis le 25 juillet. Nous voulons le retour à la légitimité et à la démocratie, a-t-il dit lors d'une conférence de presse à Tunis. Autre priorité de ce front d'opposition, sauver une économie en profonde récession, car la situation politique repousse les investisseurs, a ajouté M. Chebbi. Composé de 5 partis politiques, parmi lesquels le mouvement d'inspiration islamiste Ennahda, bête noire de M. Saied, et de 5 associations, cette coalition ambitionne d'attirer d'autres formations politiques et des personnalités influentes avant de lancer un dialogue national sur des réformes destinées à sauver le pays, selon M. Chebbi.
24 migrants sont portés disparus après le naufrage de leur embarcation au large de l'archipel espagnol des Canaries, ont annoncé mardi les gardes-côtes espagnols qui ont retrouvé un mort. Les sauveteurs espagnols avaient été avertis par la garde civile du départ de 61 migrants du cap Boudjour au Sahara occidental, ont-ils indiqué sur Twitter.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, a été testée positive au Covid-19 mardi. Selon sa porte-parole, Madame Harris n'a pas de symptômes. Elle va s'isoler et continuer à travailler depuis sa résidence, en précisant qu'elle n'avait pas été en contact étroit avec le président Joe Biden ou la première dame en raison de leur récent programme de voyage. Le président américain Joe Biden a fait usage pour la première fois mardi de ses pouvoirs de grâce en annonçant qu'il commuait les peines de 75 personnes et qu'il en amnistiait 3 autres. L'Amérique est une nation de loi et de seconde chance, de rédemption et de réhabilitation, a soutenu Joe Biden dans un communiqué. Les États-Unis se disent prêts à aider l'Ukraine à gagner la guerre, alors que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, en visite à Moscou, appelle l'Ukraine et la Russie à travailler en coordination avec l'ONU pour permettre l'ouverture de couloirs humanitaires. Le point avec Abdelrahman Diab.
Antonio Guterres, qui a rencontré le président russe Vladimir Poutine, a spécifiquement évoqué le sort des civils toujours coincés dans le complexe métallurgique d'Azovstal à Mariupol, assiégé par l'armée russe. Le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, a répondu lors d'une conférence de presse avec le patron de l'ONU que son pays est prêt à coopérer avec les Nations Unies pour soulager les populations civiles en Ukraine. Pendant ce temps, les États-Unis et leurs alliés se réunissent en Allemagne. L'Ukraine croit clairement qu'elle peut gagner et c'est aussi le cas de tout le monde ici, a déclaré le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin à l'ouverture de cette réunion organisée par Washington sur la base aérienne de Ramstein afin d'accélérer les livraisons d'équipements militaires à l'Ukraine. Sur le terrain, plusieurs localités de l'Est sont tombées ces deux dernières semaines et l'armée russe continue de grignoter du terrain. Et dans le sud, à Mariupol, presque entièrement contrôlé par les Russes, les troupes de Moscou continuent d'y pilonner le vaste complexe métallurgique Azovstal où sont retranchés les derniers combattants ukrainiens avec, selon eux, près de 1000 civils.
La mairie de Kiev a commencé mardi la démolition d'un monument historique d'époque soviétique célébrant l'amitié entre l'Ukraine et la Russie après l'invasion du pays par Moscou lancée il y a 2 mois. Un autre monument de cet ensemble sera démonté à une date ultérieure, tandis que le troisième, une arche, sera rebaptisé et éclairé aux couleurs ukrainiennes. Sur VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à présent, suivez l'actualité économique dans la Miniteco avec Claire Morin-Gibourg.
Les exportations du Sénégal vers le Mali, son principal client, sont en baisse de près de 61% en février 2022 par rapport au mois de janvier en raison de l'embargo de la CEDEAO sur le Mali, selon les données de la Direction de la prévision et des études économiques basée à Dakar. En valeur, cette baisse s'élève à 37,6 milliards de francs CFA. Le Mali avait absorbé 20,2% des exportations totales du Sénégal en 2021. La DPEE précise toutefois qu'environ 56,1% de la valeur des exportations vers le Mali sont exclues de cet embargo. Le Rwanda a signé un accord de 180 millions de dollars avec la Banque africaine de développement pour étendre l'accès à l'électricité aux zones rurales et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Au total, 77 470 foyers seront raccordés pour la première fois à l'ensemble du réseau électrique, affirme la BAAD, ainsi que 75 écoles, 8 centres de santé et 65 centres administratifs. Cela permettra aussi de créer 455 emplois permanents et 760 emplois à temps partiel, dont 30% pour les femmes. Les prix alimentaires et de l'énergie, dont la hausse a été exacerbée par la guerre en Ukraine, pourraient rester élevés jusqu'à la fin de 2024, estime la Banque mondiale. Au cours des 2 dernières années, la hausse des prix de l'énergie a été la plus importante depuis la crise pétrolière de 1973.
Et nous retrouvons Nanit Sylvani Talani dans votre page des sports. Bonsoir Nanit.
Bonsoir Eric. Bonsoir à tous. Le nouvel entraîneur du Sili National, Kaba Diawara, qui a été confirmé le 21 avril dernier, promet de rajeunir la sélection nationale guinéenne avec des joueurs locaux et des binationaux. On travaille beaucoup pour avoir le maximum de Guinéens qui évoluent en Europe au sein de notre équipe nationale. Lors de la dernière CAN, on a vu qu'on avait des problèmes d'efficacité offensive. Nous n'avons pas pris beaucoup de buts, mais nous n'en avons pas marqué aussi assez. Il y avait aussi le chantier du latéral droit. Il faudra ramener de la solidité défensive également. Nous allons mettre une équipe jeune. Donc, il faut être un peu patient, on va continuer à travailler et rectifier les petites erreurs qu'on a indiqué le sélectionneur Diawara, 46 ans, lors d'une conférence de presse lundi à la Fédération guinéenne de football. L'entraîneur du club de la Renaissance sportive de Berkane, le Congolais Florent Ibengue, a été victime d'un accident de la route après son retour d'une séance d'entraînement et a été transféré à l'hôpital universitaire Mohamed VI, a publié le club marocain sur ses réseaux sociaux tôt ce mardi matin. Ibengue souffre d'une blessure à la colonne vertébrale et doit observer une période de repos allant d'une semaine à 10 jours et qui pourrait être réévaluée. Le club espagnol Villarreal, de l'Ivoirien Serge Alain Stéphane Aurier, du Nigérian Samuel Chimerenka Chukwueze et du Franco-Sénégalais Boulaïdia se déplace demain mercredi en demi-finale aller de la Ligue des Champions chez un favori pour le sacre, Liverpool de l'international sénégalais Sadio Mané et de l'Égyptien Mohamed Salah. Villarreal, petit poussé du dernier carré de la Ligue des Champions, affrontera donc Liverpool qui compte ses 6 couronnes continentales. Villarreal sort d'un sacre en Ligue Europe l'an dernier au tir au but contre Manchester United. Et le sous-marin jaune, demi-finaliste de la C1 en 2006, peut se targuer de 2 coupes intertoto en 2003 et 2004. Toutefois, son armoire à trophées ne fait pas le poids face aux titres internationaux raflés par les Reds. Liverpool a remporté 6 C1, la dernière en 2019, et a perdu 3 finales, la dernière en 2018. Le club anglais a raflé 3 Ligues Europa et 4 Supercoupes de l'UEFA. Au total, 14 titres internationaux.
C'était les sports de Nanit Sylvani Talani.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manilakidza avec vous, place au dossier du jour. Le Cameroun accueille depuis hier une réunion d'experts internationaux sur les solutions au déplacement forcé dans la crise centrafricaine. Une situation qui affecte notamment les 5 pays voisins, le Cameroun, la RDC, le Congo, le Tchad, le Soudan et le Soudan du Sud. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Julntap.
La rencontre d'experts est une initiative conjointe du gouvernement camerounais et du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Selon son bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, la crise centrafricaine a provoqué le déplacement forcé de près de 1,4 million de personnes, soit près du tiers de la population de ce pays.
L'appui qu'on donne aux déplacés de l'Afrique centrafricaine ne suffit pas.
Mélicente Moutouli, directrice du bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre du HCR.
Il faut vraiment un effort additionnel, pas seulement des pays hôtes, mais aussi de la communauté internationale. On sait déjà qu'il y a des solutions pour ceux qui veulent rentrer au pays, mais il faut d'autres solutions pour ceux qui opteraient de rester dans les communautés hôtes.
Les experts réunis à Yaoundé doivent proposer des solutions durables pour une inclusion socio-économique des réfugiés centrafricains dans les pays hôtes ou celle de leur retour volontaire dans leur pays. À ce propos, l'Union africaine préconise 2 solutions. Minata Soumoussa Sematé, commissaire aux affaires politiques de l'Union africaine.
La mise en œuvre du pacte mondial sur les réfugiés par les États et les autres parties prenantes est plus que d'actualité. Le partage des charges et des responsabilités est une priorité dans un esprit de solidarité et de coopération internationale.
Le nombre de déplacés forcés de la crise centrafricaine est estimé à plus de 345 000 âmes au Cameroun, selon le ministre camerounais de l'administration territoriale pour la Tanganyi. La majorité vit au sein des communautés d'accueil. Kildadi Takieke Boukar, gouverneur de la région de l'Adamawa, dans la partie septentrionale du Cameroun, où l'on trouve 2 camps de réfugiés centrafricains.
Ces réfugiés, en retour, doivent respecter les mesures prises par le gouvernement camerounais, notamment cette cohabitation pacifique, le partage des espaces de pâturage avec les populations autres, devrait se faire de manière harmonieuse.
Ces 6 dernières années, le gouvernement du Cameroun affirme avoir dépensé 50 milliards de francs CFA au profit des réfugiés centrafricains. Le jeune Bélan Bella, ministre camerounais des Relations extérieures.
Il s'agit donc pour nous, et ceci est avéré nécessaire, non seulement pour l'ensemble des pays d'accueil de ces déplacés, mais également pour les acteurs internationaux impliqués, d'établir sur un cadre communautaire régional de chercher des solutions durables afin d'améliorer les conditions de vie de ces personnes vulnérables.
Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
En Côte d'Ivoire, le ministère de l'Éducation nationale a enregistré 5833 cas de grossesse en milieu scolaire, dont 233 au primaire. Le nombre de ces cas de grossesse inquiète le gouvernement qui cherche à lutter efficacement contre ce fléau. Le reportage de notre correspondante à Abidjan, Delphine Boise.
Les grossesses en milieu scolaire, malgré toute la sensibilisation faite sur le sujet, le nombre est toujours en hausse. Les chiffres eux-mêmes font peur. Mamadou Fofana est le directeur de la planification et des statistiques au ministère de l'Éducation nationale.
Nous avons enregistré cette année 233 cas de grossesses au primaire et 5600 dans le secondaire. Et les régions les plus impactées par cette de grossesses. Pour le primaire, c'est le Bekè qui vient en tête, ensuite sur le Gontougo. S'agissant du général, nous avons d'abord Abidjan et le Gontougo et les tranches d'âge au primaire, moins de 12 ans et 12 ans et plus dans le secondaire.
Une des victimes dont nous protégeons l'identité répond aux initiales de GM, partage cette amère aventure d'élèves ayant contracté une grossesse à l'école.
J'étais en classe de 3e et voilà, j'ai contracté cette grossesse. Et celui qui m'a engrossé, il était étudiant, il m'a laissé tomber en fait. Et quand j'ai accouché, je vous assure que je n'avais pas une assistance médicale. Et l'enfant et moi, nous étions malades. Et l'enfant est décédé à 1 mois de semaine.
Subir les effets d'une grossesse précoce, puis perdre son enfant est quelque chose de terrible pour GM, suite de son témoignage.
Il y a plusieurs conséquences. Sur le plan même scolaire, ça n'allait pas. J'étais rejetée et ne plus avoir la force de reprendre le chemin de l'école. Cet aspect de ma vie m'a marqué psychologiquement. Ça m'a mise dans une situation dépressive.
Face à cette situation dramatique pour les jeunes filles et jeunes futures mères, les Ivoiriens réagissent. Mel Emmanuel Amani est interprète traducteur.
C'est un phénomène qui met à mal l'éducation ivoirienne.
Okowe Michael, étudiant en philosophie.
Les parents trouvent que le sexe est un sujet tabou.
Dame Karen Siri.
Il y a beaucoup de raisons. L'irresponsabilité des parents. Également, il y a un laisser-aller même au niveau aussi de l'enfant.
Les grandes perdantes sont les filles. Et un enfant se fait souvent à deux. Qu'en dire des pères? Mamadou Fofana situe les responsabilités.
Les auteurs, c'est généralement élèves et étudiants, le personnel d'éducation et les petits métiers.
Pour Karine Siri, il faut plus de communication entre les parents et les enfants.
Je parle de sexualité avec mes enfants.
Brahima Traoré est le directeur régional du ministère de l'Éducation nationale de Korogo dans le nord du pays.
Au niveau de l'encadrement, les jeunes filles sont adolescentes, c'était une période assez difficile.
Le programme des Nations Unies pour la population participe à la campagne dite zéro grossesse à l'école. Docteur Konan Yaou, chargé de programme jeunes et adolescents à l'UNFP Côte d'Ivoire.
Le premier pilier, c'est l'éducation en matière de santé sexuelle et de la reproduction. Le deuxième élément, c'est les campagnes multimédia.
La plupart des jeunes filles enceintes sont obligées de quitter l'école et commencer une nouvelle vie plus difficile car sans argent, il faut pouvoir nourrir et élever son enfant. Delphine Bouise, Abidjan, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
Le président malgache Andry Rajoel était la semaine dernière à Washington, où il a pris part aux réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale. Plusieurs accords ont été signés avec ces institutions pour appuyer le programme économique d'Antananarivo. Au micro de Abdurrahman Dia, le ministre malgache des Affaires étrangères fait le bilan de cette visite et s'exprime aussi sur le conflit en Ukraine et les relations entre les États-Unis et Madagascar.
Le président de la République souhaitait contribuer d'abord en partageant la politique que nous menons à Madagascar pour la coopération et le financement d'un plan national de redressement qui rejoint bien sûr le plan d'émergence pour Madagascar, mais aussi de procéder à la signature des accords de financement pour accompagner notre pays sur la voie de l'émergence et de la résilience. Vous savez que nous avons passé une période assez difficile avec 4 cyclones successifs et ça fait beaucoup en termes de dégâts. Et donc nous étions ici surtout pour nous assurer que nous avons la confiance de ces institutions de Bretton Woods et fort heureusement, nous avons pu bénéficier de leur appui pour les années à venir.
Pour ce qui concerne les relations entre Antananarivo et Washington, quel est un peu l'état des lieux, si on peut dire ainsi?
Nous savons que le contexte actuel de la guerre en Ukraine est assez complexe. Nous sommes tous plus ou moins concernés, directement ou indirectement, par ce qui se passe en Ukraine. Madagascar Et sur le continent africain, comme beaucoup de pays africains, nous avons choisi de ne pas interférer. Donc Madagascar est un pays neutre, mais pas indifférent, notamment par rapport aux désastres humains que nous connaissons maintenant. Alors avec les États-Unis, bien sûr, nous sommes venus ici pour expliquer notre point de vue. Et je peux vous dire que nos rencontres, d'abord avec les responsables de l'USAID, puis du Millennium Challenge Account, avec qui nous avons aussi échangé sur le retour de Madagascar dans le cadre de ce mécanisme MCC, et nous espérons d'ailleurs bénéficier d'un compact total. Nous avons aussi partagé donc notre point de vue avec eux.
Et justement, Monsieur le Ministre, comment est-ce que ce conflit en Ukraine impacte un peu Madagascar, qui importe une bonne partie du blé, disons, de cette partie du monde en Ukraine et en Russie?
Comme beaucoup de pays, nous risquons bien entendu de connaître les conséquences d'une probable pénurie de matières premières. L'inflation n'est pas à écarter, une inflation mondiale. Dans les mois à venir, il y a un risque véritable. C'est pourquoi nous devons trouver une solution pacifique pour éviter le pire.
C'était le ministre malgache des Affaires étrangères. Elon Musk a racheté le réseau social Twitter, fréquenté par des millions d'utilisateurs et des dirigeants politiques dans le monde, pour 44 milliards de dollars. Il s'agit d'un moment décisif pour cette entreprise lancée il y a 16 ans et qui s'est imposée comme l'une des places publiques les plus influentes du monde. Pour en savoir davantage sur les enjeux de cette nouvelle acquisition pour le milliardaire d'origine sud-africaine, Jean-Roger Bion a joint à Douala au Cameroun Paul-Joël Kamchang, secrétaire exécutif de Adici Cameroun, spécialiste des plateformes de communication.
Au-delà des enjeux commerciaux, on a également des enjeux politiques, parce que désormais ces différentes plateformes-là se comportent un peu comme des États, et parfois les vrais États, selon les statuts des Nations Unies, se méfient des activités qui s'y passent. Et vous savez que de plus en plus, c'est par ces plateformes-là, à partir desquelles dans le monde, les citoyens parviennent à contrôler les politiques publiques et même à renverser des politiciens. Et donc il va sans dire que il y a certains aspects commerciaux qui apparaît à première vue, mais également il y a plusieurs enjeux, même parfois géostratégiques, derrière ces différentes plateformes.
Elon Musk met en avant des innovations telles que la promotion de la culture, de la liberté d'expression. Qu'est-ce que cela veut dire pour le contexte africain et global ensuite?
Oui, en fait, il ne va faire que renforcer les missions premières de cette plateforme. Vous savez que à l'origine, en créant ces différentes plateformes, c'était davantage pour promouvoir les libertés d'expression, les libertés d'association et même les libertés d'information ou d'accès à l'information, avec notamment le droit de savoir. Et en Afrique, vous savez que de plus en plus, les libertés publiques sont menacées, notamment dans des espaces civiques. Et donc, de plus en plus, les citoyens ont tendance à aller s'exprimer sur la toile. C'est pour ça qu'on remarque, par exemple, une avalanche d'expressions en ligne promues par les citoyens qui souhaitent bien se faire entendre. Et de plus en plus, vous allez également constater que ces différentes plateformes-là subissent des surveillances, parfois fantômes, de la part des différents gouvernements qui davantage ont des services spécialisés qui surveillent et traquent des citoyens. Et donc, je crois que c'est dans cette logique-là qu'il devrait s'inscrire. Mais il faut autant dit que ça ne reste qu'un vœu, ça ne reste qu'un idéal, ce d'autant plus que les États ne se laissent plus faire, parce que de plus en plus, ils contrôlent les libertés des citoyens sur cette plateforme-là pour mieux asseoir leur pouvoir et contrôler justement la cité.
Alors Elon Musk est sud-africain, donc africain. Est-ce que l'expansion de son empire à travers ce réseau social pourrait avoir des bénéfices pour le continent?
D'un point de vue commercial, pas du tout, je crois pas, parce que l'Afrique ne fait même pas partie des meilleurs chiffres d'affaires de ces différentes plateformes. Et plusieurs études ont prouvé justement que le taux de pénétration en Afrique reste l'un des plus bas dans le monde, à cause par exemple des sérieux soucis de connectivité. Donc il ne devrait pas seulement présenter cette plateforme comme étant la plateforme qui vient libérer les Africains, mais également il y a des vrais problèmes et des vrais enjeux auxquels il faudrait s'attaquer, tels que le pouvoir d'achat, tels que la question de la pénétration d'Internet en Afrique, tels que cette capacité des citoyens à s'acheter du crédit ou des devises pour aller justement surfer.
Paul-Joël Kamchang, secrétaire exécutif de l'Association pour le développement intégré et la solidarité interactive à DC Cameroun. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Joselle Morissin, Michel Joseph, Lionel Nounamila Gahima. Au micro, Eric Manela Kiza. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24 heures sur 24, voafrique.com. Sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Et à la prochaine.